Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Rebonjour pour ceux qui nous écoutent depuis ce matin. Donc, je suis Stéphane Croza, je suis en studio sur Graphite à présent avec Lilou Péréard, avec Barthélémy Penet, avec Artus Vermersch et avec Dolène Arnaud. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Alors, vous nous avez présenté chacun un exposé qui rend compte de vos travaux ce semestre donc dans le cadre du cours WE01, questionner le web, un cours que j'anime avec mon collègue Quentin Duchemin, donc à l'UTC, à l'Université de Technologie de Compiègne. Donc vous allez nous parler d'extractivisme attentionnel sur les réseaux sociaux et de Chrome et de la collecte de données. Hein. Bien évidemment, c'est en lien avec le cours que l'on fait en WE1. On y parle culture libre, on y parle GAFAM, on y parle alternative aux GAFAM avec les chatons. C'était le cours que vous avez eu mercredi dernier. Et puis, bien évidemment, on y parle capitalisme de surveillance et collecte de données. Si Lilou et Barthélémy, vous êtes prêts, je vais vous laisser la parole pour le premier exposé donc sur l'extractivisme attentionnel sur les réseaux sociaux, quand vous voulez.
Merci beaucoup. Alors bonjour, nous sommes Lilou Péréard, étudiante en ingénierie mécanique, et Barthélémy Penet, en deuxième année de tronc commun équivalent prépa intégrée. Et nous allons vous parler de l'extractivisme attentionnel sur les réseaux sociaux. Pour cela, nous commencerons par vous présenter un article, puis un concept qui permettra une deuxième analyse de cet article. Je laisse maintenant la parole à Barthélémy.
Donc, l'article que je vais vous présenter, intitulé « Irrésistible design », est issu du numéro juin-juillet numéro 64, « Peut-on échapper à l'emprise du numérique ?» du magazine Social Alter, paru en 2025. Ce bimestriel entend se pencher, d'après leur site internet, sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public, notamment avec une place importante laissée à la justice, la démocratie et l'écologie. L'autrice de l'article, Léa Dang, est journaliste chez Social Alter et publie chez Mediapart le magazine 21 et Reporter. Par ailleurs, l'article s'appuie sur les travaux de Madi Kamassi, chercheur en sciences cognitives, affecté à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, ISIR, à Sorbonne Université. Cet article s'intéresse aux différents designs de nos plateformes numériques et en particulier les réseaux sociaux, qui servent à nous y maintenir le plus longtemps possible. Faisons donc un tour d'horizon de ces designs. Prenons en premier lieu l'autoplay. Cette fonctionnalité consiste à lancer le visionnage du contenu suivant automatiquement. Dans une situation habituelle, avant de prendre une décision, notre cerveau, je cite l'article, engage un processus de réflexion. Cependant, avec l'autoplay, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram, notre cerveau ne réalise pas ce processus. Nous tombons, je cite encore, dans un mode passif. Pour soutenir cet énoncé, l'article s'appuie sur une étude nommée « Viewing Personalized Video Clips Recommended by TikTok Activates Default Mode Network and Ventral Tegmental Area », issue de la revue Neuroimage numéro 237, parue en 2021. L'étude compare les activations cérébrales des utilisateurs selon qu'ils regardent des vidéos suggérées via un algorithme personnalisé ou non. La conclusion de l'étude est que les vidéos personnalisées augmentent l'activation de l'aire tegmentale ventrale qui, entre autres, produit les neurotransmetteurs dopamine, donc la dopamine qui fait partie du circuit de la récompense. Elle active aussi le réseau mode par défaut. Son nom ne montre que partiellement ce que cela désigne. Le mode par défaut est une sorte d'état mental durant lequel on se détache du monde matériel pour se pencher vers soi, ses émotions, celles des autres. Cet état intervient habituellement lors d'un sommeil léger et d'une anesthésie. Nous nous sommes appuyés sur l'article « Le réseau cérébral par défaut, un repos qui n'en est pas un ». Paru dans Revue de Neuropsychologie en 2018. Cela montre que l'état mental dans lequel nous sommes lorsque nous regardons des vidéos personnalisées diffère de notre état habituel. Nous n'avons pas trouvé d'éléments qui indiqueraient un changement de comportement lié à cet état, par exemple un temps passé sur les plateformes plus accru. Le terme d'état mental n'a jamais été utilisé dans l'article du magazine ou de recherche, c'est le terme qui nous a semblé adapté pour décrire le phénomène. Cela illustre parfaitement un autre design, l'algorithme de préférence. C'est une manière de concevoir un algorithme pour que ses utilisateurs soient, je cite l'article, progressivement exposés à des contenus qui reflètent nos préférences et privilégient la viralité à la qualité de l'information. L'arrivée des vidéos courtes avec TikTok, puis les réels sur Instagram et finalement les shorts sur YouTube ont permis à ces plateformes de récupérer encore plus de données qui permettent d'améliorer leurs algorithmes. Pour nous rendre addicts, ils ont aussi ajouté la variabilité de la récompense. Cela consiste à faire varier la pertinence des contenus proposés. Cette technique s'appuie sur des études menées sur des rats par Tolman et Onzik en 1930, dont la réutilisation par les casinos puis les géants du numérique est expliquée dans « Addiction aux écrans, l'être humain, un rat comme les autres », un article paru dans Le Temps le 13 décembre 2017. Ils ont montré que pour qu'un rat appuie plus souvent sur un levier qui entraîne une récompense, ici des croquettes, il fallait que cette récompense soit variable. Les réseaux sociaux utilisent cet effet addictogène, à la fois en nous proposant régulièrement des contenus qui ne nous intéressent pas, mais aussi dans la notification des likes. En effet, au lieu de nous informer en une fois de l'ensemble des likes reçus par notre publication ou notre story, les plateformes nous envoient de manière aléatoire une notification qui nous indique que notre publication a reçu un certain nombre de likes, puis une autre encore un peu plus tard. Nous allons maintenant écouter un court extrait de The Attention Economy par Marco Bena, un enregistrement publié sous licence Creative Commons Attribution 4.0.
You're right, and that's why we're diving into this whole idea of the attention economy today.
Right, something that Yuval Noah Harari summed up perfectly. He said, in ancient times, power was held by those who had access to information. But today, he says, having power means knowing what to ignore.
Oh, that's good. Yeah, I like that. And that really sets the stage for what we're talking about, because the internet and especially social media, they've kind of like supercharged this whole attention economy thing.
Right. And I think media has always been in the business of trading content for attention in some way.
Right. Of course. But with social media, it feels like it's become something else entirely.
Like it's become this almost like this disruptive force.
Mm. Right. Yeah. And think about it. We have these platforms like Instagram, TikTok, YouTube, and they're all built around this like constant stream of content, right?
Right, and it's always there. It's like you said, the endless scrolling, the autoplay videos, the constant notifications.
Right, and all of that, it's not just for our entertainment. I mean, it's all very deliberately designed to capture and keep our attention.
Et je vais maintenant vous parler plus en détail de l'extractivisme attentionnel. Nous allons dans un premier temps vous parler des origines de l'extractivisme. Historiquement, pardon, l'extractivisme désigne le fait d'extraire de manière intensive une ressource naturelle portée par une logique économique. Le but étant d'extraire un maximum le plus rapidement possible, le tout sans se soucier du renouvellement de cette dernière et sans même penser aux conséquences sociales et écologiques que cela peut engendrer. Bien que sa naissance se réfère plutôt aux activités minières, agricoles puis industrielles, l'extractivisme dans sa globalité connaît un certain nombre de caractéristiques communes et cela peu importe le domaine. Selon Yves Citon, qui est cité dans le livre « Angle mort du numérique ubiquitaire » paru le 14 juin 2024, il expose cette idée. Toutefois, aujourd'hui, cette logique peut concerner un autre type de ressources, à savoir nos ressources psychiques. Ainsi, l'attention humaine est devenue une ressource à exploiter à part entière. Yves Citon, toujours, ajoute également que l'extractivisme peut aussi se définir par le fait de, je cite, réduire un environnement à ce qu'il nous en paraît comme constituant une ressource pour nos pratiques intéressées actuelles. On se retrouve alors avec un aveuglement à long terme, car en effet, les conséquences futures, écologiques et sociales, ne sont pas intégrées dans une logique capitaliste productiviste qui n'aurait que faire de ces dernières. Et c'est maintenant à une ressource bien précise que nous allons nous intéresser, l'attention humaine. Nous allons à présent voir dans quelle mesure nous avons affaire à une marchandisation de l'attention qui est devenue une ressource rare. Ainsi, de nos jours, l'attention devient comparable à une ressource économique rare, comme je l'ai dit précédemment, car n'importe quelle entreprise voulant promouvoir un de ses produits se verra dans le besoin d'acheter du temps d'attention sur une plateforme comme sur la chaîne TF1 par exemple. Et cette idée a été émise dès 1971 par Herbert Simon. Et d'ailleurs, le président directeur général du groupe TF1 en 2004, Patrick Lelay, dira, je cite, « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. » Quand les réseaux sociaux n'étaient pas encore développés, cette monétisation de l'attention humaine apparaissait au travers de publicités dans les magazines, à la télévision, à la radio ou encore dans la rue. Mais aujourd'hui, les plateformes comme les réseaux sociaux fonctionnent comme des industries d'extraction, car leur but est de capter un maximum d'attention afin de la revendre, typiquement à des fins publicitaires. Et c'est pour cela que les outils vus dans la première partie, comme l'autoplay, les notifications ou encore les likes, et qui sont pensés pour agir sur notre système de la récompense, sont très intéressants à étudier. De même, les publicitaires, eux, jouent sur notre système d'alerte, comme le souligne Stéphane Hugon dans un article issu d'un hors-série « Enquête d'attention » publié en octobre 2024 par l'ADN. Il dit également, je cite, c'est la publicité avec un son plus fort, un pop-up qui surgit, une publicité placée en milieu d'un film. C'est une intrusion, une saillance, et c'est violent. Nous allons à présent voir pourquoi l'extractivisme attentionnel est une exploitation sans renouvellement. Toujours dans ce même article, issu d'un hors-série Enquête d'attention, mais dans la partie dédiée à l'écologie de l'attention cette fois, qui est un concept proposé toujours par Yves Citon, et qui le définit comme la manière dont nous pouvons protéger, cultiver et réguler notre attention à l'instar d'un milieu naturel que l'on chercherait à protéger, on apprend les choses suivantes. Un des problèmes majeurs rencontrés à cause des plateformes est le fait qu'elles extraient notre attention sans considération pour nos limites cognitives. On parle alors de fatigue mentale, de perte de concentration ou encore de surcharge informationnelle. Ce qui, sur le long terme, peut avoir un impact direct sur la santé, comme une perturbation du sommeil, un développement de l'anxiété ou encore des capacités cognitives altérées. Mais le phénomène peut aussi avoir un impact sur l'espace public. Celui-ci est remodelé en raison de relations sociales modifiées ou encore un rythme où la vie quotidienne peut être perturbée. Et finalement, cette non prise en compte des conséquences à plus long terme a également des impacts dans le domaine écologique via un coût énergétique du numérique et également avec le développement d'un extractivisme plus classique celui-ci. En effet, pour construire des terminaux comme les ordinateurs, les écrans, les smartphones, etc., ou encore les serveurs, réseaux numériques et j'en passe, il faut des métaux extraits de mines. Et cette activité est aujourd'hui une importante source de pollution. D'après Aurore Stéphan, ingénieure géologue minière, qui en parle dans un article issu du journal Tech publié le 19 juin 2025, intitulé « Aurore Stéphan, une voix puissante contre les illusions de la transition verte », elle évoque que l'industrie minière est responsable de 4 à 7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Finalement, l'extractivisme attentionnel transpose au domaine psychique une logique historique d'exploitation et l'attention est devenue une ressource traitée comme un gisement à exploiter. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci Lilou, merci Barthélémy pour cette première présentation. Donc vous nous avez parlé d'extractivisme attentionnel. Eh bien, je vous propose d'enchaîner directement donc avec Artus et Dolène qui vont nous parler du navigateur Google Chrome et de la collecte de données. Donc on va avoir un lien en quelque sorte avec ces deux interventions. Si c'est OK pour vous, c'est parti.
Bonjour. Donc moi, je suis Artus Vermeer, je suis étudiant en première année à l'UTC en tronc commun et je suis avec Dolène qui est aussi étudiante, Dolène Arnaud qui est aussi étudiante à l'UTC en première année. Et nous allons parler tout d'abord d'une BD qui a été, d'une BD qui s'appelle Contrat Chrome et en deuxième partie, Dolène va vous parler des données personnelles. Donc, Léa Elliott, une dessineuse de webcomic et militante pour les droits numériques, a publié Contrat Chrome en 2022, en reprenant la BD de Scott McCloud commissionnée par Google en 2008. Dans cette dernière, l'auteur expliquait le fonctionnement du, à ce moment-là, tout nouveau navigateur de Google. Mais, selon Léa Elliott, il était grand temps de mettre à jour les informations sur Chrome dues à son évolution entre 2008 et 2022. Contrat Chrome est une BD sobre et claire, racontant le fonctionnement de Chrome en profondeur. L'autrice y critique les tendances du géant de la tech à récolter les données personnelles sans en informer ses utilisateurs. Elle le fait en exposant différentes méthodes que Google mobilise pour en apprendre plus sur ses utilisateurs. Malgré le sujet qui est sérieux, Contrat Chrome a une approche humoristique avec des jeux de mots comme consommateur Google satisfait, des recherches ou des sites plutôt absurdes comme lorsque l'on tape P dans la barre de recherche montrant des recherches comme Pierre Ninet, PewDiePie ou encore Pegging, Prostate Cancer ou d'autres sites qui peuvent avoir des noms assez drôles, ou même des répliques de personnages connus comme l'amiral Akbar de Star Wars rétorquant « It's a trap, c'est un piège ». Deux des outils présentés par Léa Elliott sont l'Omnibox et la connexion automatique. Le premier, l'Omnibox, vient du latin « omni », signifiant « tout ». C'est un autre nom pour la barre de recherche de Chrome. Lorsque l'on entre rien qu'une lettre dedans, Cet outil propose plusieurs recherches qui pourraient être la nôtre. Que ce soit des anciennes recherches ou des sites déjà visités, des recherches par rapport à nos données personnelles, comme nos intérêts, nos opinions, notre âge, notre sexe, etc. Cela indique que ces informations sont stockées et utilisées par un algorithme avancé qui cherche à finir nos demandes. Cela n'est pas possible localement, c'est-à-dire directement sur l'ordinateur de l'utilisateur. Et les informations tapées dans cette barre sont donc envoyées au fur et à mesure sur les serveurs de Google. Et j'ai bien dit « taper au fur et à mesure », car Chrome n'attend même pas que vous finissiez votre recherche avant de capturer vos données, vos hésitations ou vos erreurs. Une forme d'entrée sans retour, comme Léa Elliott le remarque. Par exemple, si une personne commence à demander « quelle est la clinique IVG la plus proche à Chrome ?», même sans appuyer sur la touche « Entrée », Google peut en déduire de nombreux secrets que cette personne ne dirait pas forcément à ses parents. C'est pour ça que c'est l'Omnibox. Second outil de Chrome présenté par l'autrice, la connexion automatique. Un outil qui vous fait gagner beaucoup de temps. Activé automatiquement depuis 2018 sur Chrome, cette fonctionnalité connecte automatiquement votre compte Google à votre session de Chrome, même si vous n'étiez connecté que sur d'autres services de Google. Par exemple, si on se connecte à son compte Gmail, on sera aussi connecté sur d'autres services comme Google Drive, mais aussi à Chrome lui-même. Cela permet de ne pas avoir à rentrer son identifiant et mot de passe à chaque utilisation. Mais cette connexion a un prix, vos données. En effet, lorsqu'on n'est pas connecté en local, Google ne peut pas faire un lien entre les différentes informations qu'il récolte. Mais dès que l'on est connecté, il crée un profil complet de renseignements personnels, de personnalité, d'intérêts, etc. Ajoutez à ça la synchronisation, le fait que vos paramètres soient conservés entre les sessions sur différents appareils, souvent sans être accord, et il est facile pour Google de vous traquer quoi que vous fassiez. Mais quelles sont ces données personnelles que Google recherche autant ? On va donc passer à un extrait de l'UMNI, de l'émission Les clés de l'informatique.
Allez, c'est parti.
Samedi, pour son anniversaire, Cindy a invité ses copains chez elle. Ses parents lui avaient laissé l'appartement et l'ordinateur de la famille pour la musique. À un moment de la fête, elle est allée dans sa chambre avec Fama pour discuter tranquillement. Elle avait laissé l'ordinateur dans le salon, mais sans fermer toutes les fenêtres qu'elle avait ouvertes avant que les copains n'arrivent. Son compte Facebook, ses mails, ses photos de vacances à Plouffe-sur-Mer et même la page de la banque familiale. Lundi, en arrivant au collège, elle a tout de suite vu que Léonard et Romain, qui sont un peu amoureux d'elle, avaient un air bizarre. « Dis donc, elle est canon ta sœur en maillot de bain ?» lui a lancé Léonard. « Et c'est qui le mec à qui tu tenais la main sur la plage ?» a ajouté Romain. « Ah, sûrement un gros riche comme toi avec tout le fric que tu as sur ton compte. » Cindy est devenue toute rouge. Elle a eu l'impression de se retrouver nue au milieu de la cour. Elle s'était fait voler ses données personnelles.
Ça repartit, c'est reparti.
D'après Wikipédia...
Non, c'est moi, vas-y, enchaîne, c'est bon, c'est parti.
D'après Wikipédia, une donnée à caractère personnel ou DCPC correspond en droit français à toute information relative à une personne physique, identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification de cette personne physique ou bien à un ou plusieurs éléments qui sont propres à cette personne. En quelques mots, il s'agit de l'ensemble des données qui nous caractérisent directement ou indirectement. Ça peut être des choses très évidentes comme le nom, l'âge, l'adresse, mais aussi des détails plus indirects comme les recherches sur Internet, des applications utilisées, des lieux fréquentés ou même les heures de connexion à certaines applications ou sites. Cette collecte de données passe par des applications, par exemple lorsque vous cliquez sur « Autoriser l'accès complet à ma galerie » ou « Autoriser la localisation », vous fournissez volontairement des informations sensibles. Cela est rendu possible grâce aux conditions générales d'utilisation, CGU, c'est-à-dire l'ensemble des règles d'utilisation de la plateforme ainsi que les droits et les obligations et des internautes et des éditeurs, d'après un article francenum.gouv. C'est également par les sites par les sites web. Mais les sites web collectent également nos données via les cookies, par exemple, avec des informations liées à votre appareil, votre connexion, comme votre système d'exploitation, votre adresse IP, etc. De plus, il existe également des traceurs publicitaires qui vont, par exemple, détecter si vous restez quelques secondes sur une publicité en particulier. Et enfin, il y a les mouchards invisibles intégrés dans certaines pages qui détectent si votre page est ouverte sur votre ordinateur ou encore à quelle heure est-ce que vous allez vous connecter et la consulter. À cela s'ajoute la récupération de vos historiques de recherche, que ce soit via des moteurs de recherche ou encore à d'autres applications comme Google Maps. Ces géants du numérique analysent ces données pour établir des profils extrêmement précis de chaque utilisateur. La plupart des géants du numérique affirment ne pas vendre vos données comme Meta, d'après un article du Monde publié en avril 2025 et rédigé par Odd Dassonville et Brice Léanle. Ces géants se contentent donc de conserver vos informations et de les exploiter pour proposer des publicités ciblées, ce qui constitue déjà une forme de monétisation. Le danger réside dans l'intrusion dans la vie privée, par exemple, la capacité de récupérer des informations sensibles comme vos habitudes à partir de simples comportements en ligne, mais aussi dans la manipulation marketing par l'influence de vos choix. Ces entreprises cherchent à comprendre vos désirs et vos besoins les plus profonds avant même que vous en ayez conscience, ce qui pose problème car cela permet d'orienter vos décisions de manière invisible en exploitant vos émotions et vos vulnérabilités sans que vous puissiez vraiment vous en rendre compte. Il n'empêche que d'après un article de l'AVC écrit par Carly Bourdova et publié le 26 août 2020, il existe d'autres entreprises moins transparentes que d'autres sur l'utilisation de vos données. Ces dernières peuvent être dans certains cas revendues à d'autres entreprises ou organismes avec l'intermédiaire d'une autre entreprise spécialisée dans la revente de données qu'on va appeler des data brokers, mais qui sont également connus sous le nom de courtiers de données. D'après le cours de WE1 de l'UTC de Quentin Duchemin, ces data brokers sont des entreprises spécialisées dans la collecte et la vente ou la revente de données, et en particulier des données personnelles telles que les revenus, l'origine ethnique, les convictions politiques, les préférences sexuelles ou religieuses, les crédits, les dettes, l'état de santé, le comportement d'achat, les loisirs ou encore les données géologiques, ce qui constitue donc une monétisation directe et concrète de nos données.
Eh ben merci à tous les deux. On va faire une petite pause musicale en attendant les questions de vos collègues qui ont écouté vos interventions.
Les 22h sur Paname, j'ai rendez-vous sur Telegram avec une rebelle ukrainienne, tous les soirs planquée dans sa rame. De métro, elle chante avec moi, elle dit que ça lui fait chaud au cœur. On est tous les deux unifiés, là comme un cyber bouquet de fleurs. Je connaissais pas Telegram ou juste comme réseau terroriste. Me voilà moi l'anti-network à soutenir mon activiste. Dans la matrix des stylos plumes, c'est avec l'Ukraine que j'écris sur une application des Russes. Je sais pas si tu vois l'ironie. On s'est rencontrés tous les deux juste au hasard des connexions. J'ai vu son drapeau sur Insta et ses messages de rébellion. Puis je me suis dit ça fait bizarre de croiser autre chose qu'une putain sur ce réseau que je conchis. On en a chanté des refrains. Si c'est toujours de l'intérieur que les vraies luttes changent le monde, au gré des guerres planter des fleurs, qu'importe le nombre de ponts. Je sais ça fait bizarre de se dire qu'on fait rébellion dans la merde. Mais si c'est ça ou mourir, alors fuck them all et je t'emmerde. Dans la matrix de nos révoltes font nos rages contre la machine. Si pour faire rugir tous les cœurs faut passer par l'hémoglobine, quel que soit le chemin que prend la lutte armée ou poésie, ne gagne jamais aucune armée sans espion chez l'ennemi. Alors mon Ukrainienne et moi sur Telegram nos anarchies, à s'envoyer des télégrammes, oui de Kiev jusqu'à Paris. Nous on fait l'amour en secret, toi Kiev et moi Pana. Nous on conjugue nos verbes aimés en virtuel sur télégramme. Comme un drapeau d'amour sur terre, s'érigeant tissé de lumière. Comme un doigt levé à leur guerre, comme un paradis en enfer. Alors mon Ukrainienne et moi, sur Telegram, nos anarchies s'envoyaient des télégrammes, oui, de Kiev jusqu'à Paris. Le soir avec ma Natalia, on se retrouve comme deux ados, comme deux amours de fin du monde. Mon amour n'a pas de drapeau, toi et moi là sur Telegram, toi sous les bombes, moi dans Paname, à jouer aux adolescents, à s'envoyer nos psychodrames, à rejouer des givagos. Qui sait, tu t'appellerais Lara, perdu au fond des Sibéries. Je viendrai te chercher, crois-moi, mais toi tu me dis que je suis plus utile où je suis, puis que les poètes sont trop précieux pour être au front, que leur plume et leur baïonnette, qu'une chanson vaudra toujours plus que leurs millions de bombes atomiques. Quelle est la trace de cet humain qui rend le crucifié biblique? Alors il faut mener la lutte depuis la grotte, mais faire trembler tous les despotes, tous les tyrans, avec la plume et le papier. Quelle élégance, ma Natalia, au combat du sang et des larmes, dans son métro a déclamé mes mots d'amour sur Telegram. Elle et moi sûr qu'on est mariés par bien plus que mille armistices. On nous coule les ruisseaux de paix qui savent faire de tout sacrifice. À chaque coin de rue de chaque pays, c'est la misère partout dans le monde, de la Chine aux États-Unis, entre les virus et les bombes. Tout est fini, les jeux sont faits, dans 40 ans tout a pété. Puis même si ça se trouve bien avant, y'a un con qui aura appuyé. Y'a deux mois, vous les tous sauver, leur planète en cliquant 10 pouces. Maintenant sont tous à paniquer, Claude Fou envoie pas la secousse. Après tout, le feu d'artifice doit pas être bien pire que les balles. À choisir, le choix est vite fait, moi je préfère partir dans les flammes. Y'a plus d'espoir, cette planète, entre les calaches et les strings, trop contaminés sont nos têtes. Nos seules ailes sont des chicken wings. Moi je voudrais juste téléporter mon âme en larmes dans ton pays, faire un sourire à ton sourire face à la fin des mondes qui crient. Quitte à crever autant que ce soit à côté d'une vraie révoltée, moi de ma terre occidentale, tout juste bonne à défiler, alors que les putes du monde entier défilent en cœur en parisienne. Moi je passe mes nuits sur Telegram avec ma beauté ukrainienne. Cette année y'aura pas pour elle de fashion week, c'est pas l'ambiance. À aller dénuder son cul pendant qu'on bombarde son enfance. Natalia, elle danse immortelle, fait de mes nuits hymne à l'amour. Pendant que les monstres bombardent, elle chante Piaf dans son métro. Moi qui la regarde en live par satellite, ma résistante, à vous faire pâlir Jean Moulin dedans sa tombe impertinente. Natalia, la fureur de vivre, Natalia, mon hymne à la vie. Natalia, elle veut rester libre, Natalia, au prix de sa vie. Natalia, fleur immortelle, contre toutes les intempéries, quelles que soient les ténèbres au ciel, Natalia, c'est l'éclaircie. Natalia, comme un soleil. Natalia, comme un soleil. J'ai pas de nouvelles de Natalia depuis hier soir, messagerie. Son téléphone ne répond plus, et moi je suis là dans Paris, comme une pauvre merde européenne qui pense à quel sera le prix de son gasoil à la rentrée, sa facture de gaz à Paris. Il paraît que c'est la fashion week, des millions de putains dans les rues, que la capitale serait à de l'oseille pour faire défiler les petits culs. Et moi l'ivrogne en fin de vie sur les quais de l'apocalypse, et moi qui prie pour Natalia que son ciel sorte de l'éclipse.
Eh bien, bonjour ou rebonjour, vous êtes de retour sur Graphite, donc 94.9 et graphite.net. Je suis en studio avec Lilou, Barthélémy, Artus et Dolène. On a parlé extractivisme attentionnel, notamment sur les réseaux sociaux. On a parlé Chrome et collecte de données. Et donc, quand je dis on, c'est vous. Hein, et pendant que vous avez fait vos exposés, eh bien, vos collègues du cours Questionner le web de l'UTC ont écouté et donc ont formulé quelques questions. Donc la première que j'adresse à Lilou et Barthélémy. Voilà, si aujourd'hui on sait, on a acté que les médias sociaux comme TikTok, Instagram, etc. Étaient problématiques pour l'attention en général, en particulier pour l'attention des enfants. Hein, donc on peut consulter notamment les travaux de Servan Mouton autour de ce sujet. Je crois que son dernier ouvrage, donc ça doit être Écran, un désastre sanitaire. Vous avez ouvert à la fin de votre exposé également sur la problématique environnementale. Aujourd'hui, l'accroissement de ces outils-là pose des problèmes environnementaux. Donc, in fine, la question qui est posée, c'est si ça pose autant de problèmes, pourquoi c'est aussi peu réglementé, pourquoi finalement eh bien, on continue d'avoir une croissance de ces outils dans notre vie quotidienne. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus ?
Alors aujourd'hui, le problème principal, ça va être le fait que notre attention, comme on a pu l'exprimer, était monétisée. Donc on va avoir des pubs sur les réseaux sociaux qui vont nous permettre de cliquer sur des liens, d'aller acheter des produits. Et donc au final, tout cet argent qu'on va pouvoir mettre en jeu, ça va venir enrichir des industries qui n'ont pas spécialement envie que tout ça soit régulé derrière. Donc on va avoir une croissance qui va être nettement implémentée justement par ces industries qui ne veulent que notre attention et qui veulent qu'on consomme de plus en plus. Et donc, on va avoir des pubs qui entraînent une surconsommation. Et donc, du coup, des industries qui vont fonctionner. Donc, au final, les points positifs, ils sont là derrière. C'est fonctionnement de l'industrie, alors au dépit de notre attention à nous. Et globalement, c'est majoritairement ces points-là.
Ok, merci. Hein. Donc effectivement, là, tu nous as décrit une partie des mécanismes du capitalisme de surveillance, notamment qu'on avait développé dans des parties précédentes. Hein. Mais si effectivement ces outils marchent bien et si on y autorise les différents patterns que vous nous avez présentés de maintenir l'attention, eh bien c'est parce qu'ils font fonctionner aujourd'hui notre monde économique. Et puis on l'a vu aussi avec notamment l'émission en lien avec la Chine. Également, ils favorisent le contrôle de l'État. Donc d'une certaine façon, il rend des services à la société de ce point de vue-là. Merci à vous. Artis et Dolène, une question pour vous deux. À présent, vous nous avez parlé donc des mécanismes de Chrome pour collecter des données avant même qu'on appuie sur la touche entrée. Hein. La question qui est posée par vos collègues, c'est finalement, est-ce qu'il y a une façon d'utiliser particulière les médias sociaux qu'on connaît et ou d'autres médias sociaux qui nous permettent aujourd'hui de fonctionner sans se faire sans se faire pister. Est-ce que on a des alternatives aujourd'hui?
Alors, c'est vrai que pour l'utilisation des grands médias sociaux, ça paraît très compliqué de les utiliser sans se faire collecter nos données. Par contre, oui, il existe de nombreuses alternatives de médias sociaux libres, comme Signal ou Mastodon, qui sont donc des médias sociaux open source.
Oui, libre, tu as dit, libre open source. Vas-y, enchaîne, il n'y a pas de problème.
Et donc qui collectent nos données de façon vraiment minime, voire qui ne collectent pas du tout nos données pour certaines.
Et dans le cadre de la plupart de ces logiciels libres et open source, quelque chose contrairement à Chrome, les données qui sont récupérées sont expliquées. Les données qui sont récupérées, qui peuvent être des données assez simples juste pour le fonctionnement, sont connues, elles sont montrées clairement et souvent assez gardées au minimum afin qu'on continue de les utiliser. Parce que, par exemple, si jamais on sait quelles utilisations sont pistées par certaines alternatives, on peut choisir de ne pas utiliser une, mais d'en utiliser une autre qui piste encore moins. Donc, c'est quelque chose qui est un peu... le fait que ce soit ouvert à tout le monde et que ce soit connu, ça pousse un peu ces alternatives à ne presque pas pister du tout.
Oui, il y a une logique de transparence en quelque sorte.
C'est ça.
Et puis également, on l'avait également mentionné dans une émission précédente, le fait que ce soit un logiciel libre fait que, par exemple, donc Mastodon, c'est un réseau social qui ressemble un petit peu à Twitter, c'est un peu le même principe. À un moment, vous êtes sur une instance, comme tu l'as dit, c'est transparent, les données qui sont collectées, on les connaît. Bah, si ça ne nous plaît pas, on peut aller sur une autre instance. Puis s'il n'y a aucune instance qui nous plaît, bah, on peut même créer sa propre instance avec ses propres règles et quand même se connecter avec les autres, avec les autres instances. Donc ça fait qu'on a la possibilité de... Là, du coup, on peut répondre un peu à la demande de vos collègues. Du coup, on peut avoir des solutions qui permettent de ne pas se faire pister. On a quelque part le contrôle, quoi. OK. Bon, bah, merci beaucoup à tous les quatre. Donc, c'était Lilou Barthélémy, Artus et Dolène dans le cadre du cours WE1 Questionner le web. Et puis, on va rendre l'antenne et on se retrouve à nouveau pour le dernier groupe de la matinée. Dans quelques minutes, on parlera, et bien on verra bien de quoi on parlera, mais on continuera de parler des enjeux du web, du capitalisme de surveillance, de culture libre, d'alternatives, etc. À bientôt.